Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RCS. Toute l'équipe est heureuse de vous présenter la dernière émission de l'année. Au sommaire de cette émission de juin, de l'actualité avec de la science, de la culture et des bonnes nouvelles. Des micro-trottoirs, nous vous avons interrogé sur vos matières préférées, celles que vous aimez le moins, vos loisirs et vos lieux de vacances. Deux interviews du personnel du collège, des astuces, des recettes et des infos sur les animaux. Bref, encore une belle émission que nous vous avons eu du plaisir à préparer pour vous.
Bonjour à tous, aujourd'hui à l'antenne c'est Ilan. Je vais vous parler de la Saint-Jean. Le 24 juin, nous fêtons la Saint-Jean et dans de nombreux villages, des feux sont allumés dans la nuit du 24 au 23 juin. Pourquoi ? La Saint-Jean est à l'origine une fête païenne puis chrétienne pour les païens. C'était une fête qui célébrait les moissons pour les chrétiens. Cette fête célèbre la naissance de Jean-Baptiste, prophète dont la mission était d'annoncer le ministère de Jésus. Une fois christianisée, cette fête est devenue celle du solstice d'été et donc la fête de la lumière. Ces célébrations sont très liées au feu. Les feux de la Saint-Jean allumés lorsque la nuit tombe symbolisent donc la lumière, mais ça ne s'arrête pas là. Les cendres ont aussi un rôle. Par exemple, les amoureux qui sautent au-dessus s'assurent que leur amour durera encore toute l'année. Quant aux célibataires, ils doivent tourner 9 fois autour du feu pour s'assurer de rencontrer l'âme sœur. Pour ceux qui veulent s'assurer la prospérité, ils doivent jeter une pièce dans le feu et parvenir à la retrouver dans les cendres. Si c'est le cas, l'année sera confortable du point de vue financier. On dit également que les cendres préservent les récoltes de la foudre et des orages. Tous ces rituels sont différents selon les régions et presque chaque village dispose de sa propre légende sur le feu de la Saint-Jean. Dans certaines communes françaises, un bûcher de bois d'une dizaine de mètres de haut est construit pour être brûlé le soir de la fête. Notamment dans la grande majorité des communes du nord de l'Alsace, ainsi que dans le sud de l'Alsace, dans les communes de la vallée de la Thure et du pays de Tann, et récemment de la vallée de la Doleur. Chaque année, au printemps, les jeunes de 18 ans du village construisent un bûcher qu'ils allumeront à l'occasion du solstice d'été le 24 juin. Ces jeunes de 18 ans passent quelques mois à construire quelque chose ensemble qui aboutira à une fête dans les villages.
Bonjour à tous. Aujourd'hui à l'antenne, c'est Lucien. Qui dit vacances dit soleil. Mais le soleil est-il éternel ? Le soleil brille car il brûle comme un combustible l'hydrogène qui est transformé en hélium dans un processus de fusion nucléaire. D'ici quelques milliards d'années, cette réserve viendra à manquer. Le soleil puisera alors l'hydrogène dans l'enveloppe extérieure de son noyau, dans une couche très chaude, proche de la surface du soleil. Le soleil enflera et finira par exploser. Les conséquences sur la Terre seront multiples. Dans un premier temps, la hausse des températures va augmenter l'évapotranspiration, ce qui entraînera une absorption régulière du dioxyde de carbone qui est indispensable à la photosynthèse des plantes. Puis, les températures sur notre planète deviendront insoutenables et la vie sur Terre impossible. La végétation cherchera à s'adapter, mais seules les espèces aquatiques survivront. Les océans seront tellement chauds qu'ils tueront toute forme de vie complexe. Dans environ 2,8 milliards d'années, il ne restera que des microbes très résistants à la chaleur. Mais pas de panique, cela aura lieu dans des milliards et des milliards d'années, alors bel été et profitez bien du soleil avec modération.
Un espoir pour les malades au sang rare.
Bonjour et bienvenue sur RCS. Aujourd'hui, c'est Mélissa, Romy et Alexis à l'antenne et nous allons vous parler d'une première mondiale en matière de médecine.
Deux volontaires britanniques ont été transfusés avec du sang créé en laboratoire et ils se portent bien.
Des chercheurs britanniques ont fabriqué des globules rouges artificiels et ils les ont transfusés pour la première fois à des humains.
C'est une avancée prometteuse car les besoins mondiaux en matière de sang sont très importants.
Les chercheurs ont travaillé à partir de sang naturel fourni par les donneurs.
En laboratoire, ils ont isolé des cellules souches dans ces échantillons de sang, puis les ont multipliées en les forçant à devenir des globules rouges.
10 receveurs volontaires ont été sélectionnés ensuite de la transfusion de ce sang artificiel. Ils se portent bien. L'essai est concluant, mais très cher à fabriquer. Ce sang artificiel ne remplacera pas le don.
Il sera d'abord destiné aux personnes ayant des groupes sanguins rares.
Bonjour et bienvenue sur RCS, la web radio du Collège Robert Schumann. Aujourd'hui à l'antenne, c'est Sacha,
Quentin
et Kylian.
Et nous allons vous parler des bonnes nouvelles. La couche d'ozone est en voie de réparation. C'est le constat d'un groupe de scientifiques surveillant la couche d'ozone autour de la Terre. Dans un rapport paru début janvier, ils ont indiqué que la reconstitution de cette barrière protectrice filtrant les UV du soleil est en bonne voie. Un trou de la taille de l'Antarctique contient au-dessus duquel il s'était formé. Avait été découvert dans les années 1980. Il était provoqué par l'utilisation de gaz contenant du chlore et du brome. À cette époque, il était massivement utilisé dans les réfrigérateurs, les climatiseurs et les aérosols. Face à cette menace, 24 pays, dont la France, ont signé en 1987 le protocole de Montréal, un accord interdisant l'utilisation de substances attaquant la couche d'ozone. Près de 200 pays l'ont ratifié à ce jour. Le chlore et le brome ont une durée de vie longue, entre 60 et 100 ans. Le bannissement de ces gaz a des effets positifs, mais cela prend du temps. Si l'interdiction est maintenue, la couche d'ozone sera rétablie dans les 40 ans à venir. Autre bonne nouvelle, selon une étude américaine, la reconstitution de cet écran naturel évitera 400 millions de cancers de la peau d'ici fin 2100, rien qu'aux États-Unis.
La forêt amazonienne va être mieux protégée. Considérée comme le poumon vert de la planète, l'Amazonie est située à 60% au Brésil. Sa déforestation a connu un pic sous la présidence de Bolsonaro. Elle s'élevait à plus de 10 000 km², l'équivalent de la surface du Liban. Lula, le nouveau président brésilien, élu en fin d'octobre, s'est engagé à préserver la forêt amazonienne et promet une déforestation zéro pendant son mandat.
Les grands fonds marins seront mieux protégés. Les parlementaires français ont voté une résolution pour que le pays s'engage aux côtés d'autres pour la réduction de l'exploitation minière dans les grands fonds marins. Le but ? Mieux protéger les écosystèmes marins et leur biodiversité. Le président Macron s'y était engagé lors de la COP27. Les océans sont aussi menacés par les déchets en plastique. Pour les réduire, la France oblige depuis le 1er janvier les restaurants, dont les fast-foods, à recourir à de la vaisselle réutilisable pour les repas servis sur place.
Quelles sont les matières que vous avez préférées cette année ?
L'histoire géo, le sport et les maths.
Pareil.
Quelles sont les matières que vous avez détestées cette année ?
L'art plastique.
Aucune précisément, mais l'art plastique, c'est celle que j'ai moins aimée, mais ça va, ça va.
Moi, la matière que j'ai détestée, c'est toutes les matières. Et la matière que j'ai bien aimée, c'était la sortie en allemand, c'est tout.
Moi, j'aime bien la physique chimie. Et ce que je déteste, c'est les maths. Allez.
Français, je sais pas, maths, matière que j'aime pas, anglais. Et histoire.
Français, allemand, les matières que j'aime. Et les matières que j'aime pas, anglais.
Moi, les matières que j'aime pas, c'est les maths. Ce que j'aime, c'est la récréation et la cantine.
J'ai déjà l'allemand et le sport. Les matières que... parce que le sport, je suis dehors depuis tout petit, j'adore ça. Et l'allemand, on a une prof superbe. Les cours que j'aime pas, c'est l'anglais. J'aime pas l'art plastique.
J'aime le sport, bah, parce que c'est... parce que j'adore le sport, c'est sportif. Et j'aime pas trop la physique.
Ma matière préférée, c'est l'EPS et les maths. Et ce que je déteste, c'est l'histoire géo et la chimie.
Bah moi, les matières que j'aime, bah déjà c'est sport, parce que ça dépense et tout. Mais les matières, maths aussi, j'aime bien. Mais les matières que j'aime pas trop, c'est musique. Parce que ça, je sais pas si ça va trop me servir un jour.
Bah moi, je déteste l'allemand déjà.
La SVT déjà, parce que c'est ma matière préférée et j'ai envie de partir dans la médecine.
Moi, j'aime toutes les matières sauf l'art classique.
Bonjour et bienvenue sur RCS, la web radio du collège Robert Schumann. Aujourd'hui, à l'antenne, c'est Léo et je suis en compagnie de Monsieur Gilger. Bonjour Monsieur Gilger, comment allez-vous ?
Bien, et vous ?
Depuis combien de temps êtes-vous professeur et pourquoi avez-vous choisi ce métier et cette discipline ?
Alors, je suis professeur depuis 22 ans et j'ai choisi cette discipline parce que j'ai fait des études techniques. Pourquoi ce métier ? Mes parents sont enseignants et mon premier stage en entreprise... On va pas dire que ça s'est mal passé, ça s'est très bien passé, mais l'entreprise avait été rachetée par une autre et l'ambiance dans l'entreprise n'était pas bonne.
Depuis combien de temps travaillez-vous au collège ?
Depuis 12 ans.
Quel club animez-vous cette année ? Quand a-t-il lieu et en quoi consiste-t-il ?
J'anime le club Role Player. C'est un club où on joue à un jeu de flip and write qui s'appelle London Next Station et ça se passe le mardi à midi.
Avez-vous une passion ? Si oui, laquelle ?
Alors ben, j'aime bien jouer, j'aime bien manger et puis j'aime bien bricoler aussi.
Aimez-vous cuisiner ?
Oui.
Quel est votre plat préféré ?
Alors il n'y en a pas un, il y en a plusieurs et ça dépendra de la saison. En hiver, j'aime bien les choucroutes. Début du printemps, manger du pissenlit, c'est pas mal. Et puis en été, les grillades, les salades avec ce qu'il y a dans le jardin.
Avez-vous un message ou un conseil pour nos auditeurs et auditrices ?
Oui, alors à Saint-Amarin, il y a une ludothèque qui s'appelle la Ludo d'Émilie. Elle est animée par des bénévoles. Elle est assez régulièrement ouverte. Elle dispose de 800 jeux à la location. Alors, la location, c'est 30 centimes. Puis j'inviterai les auditeurs à aller voir les bénévoles, à s'installer, à demander à jouer. Et dans le jeu qui marche bien au niveau des jeunes, c'est Wasabi.
Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions.
Bonjour et bienvenue sur RCS. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un max de mangas pas trop connus. Vous êtes plutôt humour, La Gameuse et le Chat est disponible au CDI dans le rayon nouveautés. Vous y découvrirez Kozakura, une jeune femme que rien ne détourne des jeux vidéo. Elle ne vit que pour cela, en dehors de son travail, elle ne fait rien d'autre que jouer aux jeux vidéo. Pourtant, un jour à son travail, un chat abandonné est proposé à l'adoption. À l'étonnement de tous et d'elle-même, Kozakura adopte le chaton. Cela va bouleverser sa vie. Le manga est très drôle et je vous le conseille chaudement. Si vous préférez les romances délirantes, Couple of Cuckoo est fait pour vous. Il raconte l'histoire de deux enfants, un garçon et une fille échangés à la naissance. La fille, Erika Amano, issue d'une famille pauvre, atterrit dans la famille riche, et Nagi Umino, le garçon, issu d'une famille riche, se retrouve dans la famille pauvre. À vous de découvrir la suite. Vous êtes plutôt mythologie, Saint Seiya The Lost Canvas est fait pour vous. L'aventure se déroule dans un orphelinat entouré par une inondation en Italie. Tenma, Alone sont amis et ils font partie de cet orphelinat. Tenma cherche la cause de l'inondation avec l'espoir de sauver ses amis. Il découvre que c'est un éboulement qui a détourné la rivière de son trajet initial sur le village. Tenma martèle le rocher qui bloque la rivière et sous le regard d'un étrange homme vêtu d'une armure d'or, il réussit à briser ce rocher en maîtrisant son cosmos, une énergie utilisée par les chevaliers du zodiaque. Il part pour le sanctuaire où se trouvent les lieux d'entraînement pour devenir chevalier. Cet animé, nouveau scénario des chevaliers du zodiaque, est disponible sur Netflix.
RCS Astuces Cuisine.
Bonjour et bienvenue sur RCS. Et aujourd'hui, nous allons parler Astuces Cuisine. Commençons par un produit très spécial, l'oignon.
Dorénavant, vous ne versez plus de larmes en pelant un oignon. Plus besoin de le passer longuement sous l'eau ou de vous équiper d'un masque de plongée. Naturel et authentique, l'oignon jaune Sunion, cultivé en France entre décembre et avril, va révolutionner votre quotidien en cuisine. Il dévoile des notes savoureuses, peu piquantes en bouche et ne laisse pas d'odeur sur les mains. Il se savoure cuit ou cru, tout cela sans vous faire pleurer.
Si vous avez envie de savourer un avocat et que celui-ci n'est pas encore assez mûr, placez-le dans un sac avec une banane. Laissez-les à température ambiante toute la nuit. Le lendemain, il sera prêt pour la dégustation. Si vous souhaitez le consommer tout de suite, déposez-le 30 secondes dans le micro-ondes.
Pour conserver la moitié d'un avocat et éviter que la chair ne brunisse, déposez quelques gouttes de citron jaune sur le dessus. L'acidité va empêcher l'oxydation du fruit.
Pour stopper la cuisson des œufs et la coque et obtenir la consistance parfaite, placez-les immédiatement dans l'eau glacée. Une fois sorti de l'eau bouillante.
Si votre miel est cristallisé, faites-le fondre au bain-marie quelques minutes, puis déposez-le dans un bocal enveloppé d'un torchon afin d'éviter le choc thermique.
Si vous souhaitez garder des crêpes chaudes et moelleuses le temps d'un dîner ou d'un goûter, faites bouillir de l'eau dans une casserole. Recouvrez celle-ci avec une assiette où vous déposerez les crêpes une à une. Couvrez-les à l'aide d'une cloche. La vapeur d'eau les réchauffera tout en les hydratant.
Pour faire fondre du chocolat au bain-marie, le bol ne doit pas être en contact direct avec l'eau. On choisit un grand récipient déposé sur une petite casserole. En effet, c'est la vapeur d'eau qui cuit et non l'eau bouillante.
Bienvenue sur RCS. Aujourd'hui, à l'antenne, c'est Kylian et Timothée. Et nous allons vous donner la recette des éclairs au saumon. Ingrédients pour 4 personnes. 100 g de beurre, 5 cl de lait, 20 cl d'eau, 150 g de farine, 4 œufs, un jaune d'œuf. Pour la garniture, 25 cl de crème liquide entière, un zeste de citron jaune, une cuillère à café de gingembre en poudre, une cuillère à café de sel fin, 2 cuillères à soupe de mascarpone et 3 tranches de saumon fumé. Et rajoutez à tout ceci 2 cuillères à café de ciboulette. 1. Préparez la pâte à choux. 2. Préchauffez le four à 180 degrés.
3. Coupez le beurre en petits dés. Faites chauffer le lait et l'eau dans une casserole. Ajoutez le beurre et lorsque le tout a bouilli, éteignez le feu, versez la farine en une seule fois et mélangez vivement avec une cuillère en bois jusqu'à ce que la pâte se décolle des parois. Ajoutez un œuf et mélangez rapidement jusqu'à absorption complète. Répétez l'opération pour les 3 autres œufs. Étape 4. Remplissez une poche à douille de pâte et coupez le bout de la poche sur 1 cm de large. Coupez la pâte sur une plaque recouverte de papier sulfurisé en formant des bâtonnets de 6 à 8 cm de long.
Badigeonnez les de jaunes d'œufs. Enfournez 20 minutes, les éclairs doivent être gonflés et dorés. Laissez refroidir sur une grille, puis coupez les éclairs en deux dans la longueur. 5. Préparez la garniture. 6. Zestez les citrons très finement et réservez le zeste dans un récipient. Fouettez la crème liquide en chantilly dans un récipient bien froid. Ajoutez le zeste, le gingembre en poudre et le sel. Mélangez et ajoutez le mascarpone, puis fouettez à nouveau rapidement. Incorporez le saumon en petits morceaux, puis la ciboulette.
Placez la garniture dans une poche à douille. Coupez le bout de la poche et garnissez les éclairs réservés aux frais. Servez avec du mesclum aromatisé, d'un filet d'huile de noix et de vinaigre balsamique. Conseil: ajoutez des graines de sésame et des graines de pavot sur l'éclair pour apporter un côté plus festif.
RCS spécial animaux.
Bonjour à tous, aujourd'hui à l'antenne c'est Aminata. Je vais vous dévoiler les infos les plus inédites sur les chats. Tout d'abord, le chat sent beaucoup mieux que toi. Le chat a un odorat très développé. Sa capacité nasale est de 2 millions de cellules olfactives. Résultat, il sent 14 fois mieux que toi. Son ouïe est elle aussi précise. Ses oreilles sont dotées de 32 muscles qui pivotent au moindre bruit, même très loin. Ensuite, le chat peut attraper une douzaine de souris par nuit. Le chat est un prédateur et ce n'est pas un hasard s'il chasse aussi bien dans la pénombre. Le fond de son œil comporte une membrane réfléchissante. Cela lui permet de voir ses proies très distinctement, même dans des conditions de très faible luminosité. Et son champ de vision couvre 200 contre 180 degrés pour toi. Par ailleurs, le chat transpire par les coussinets. Le chat ne sue pas, car ce n'est en se léchant qu'il se refroidit. Il ne transpire que par les coussinets sous les pattes, car c'est là qu'il émet des phéromones, substance avec laquelle il marque son territoire quand il fait ses griffes. Ensuite, le chat a des moustaches de vue. Ton chat se sert de ses vibrisses pour éviter les obstacles. Il s'agit de fines moustaches qui sont situées de chaque côté de son museau. Elles comportent à leur racine des terminaisons nerveuses qui les rendent extrêmement sensibles à la pression de l'air et au toucher. Effleure-les et tu verras que ton chat se met à cligner des yeux.
Bonjour à tous, aujourd'hui à l'antenne c'est Louis. Je vais vous parler
du Mustang. Le Mustang, un rêve américain. Partons à la découverte du Mustang, symbole de liberté dans les plaines de l'Ouest américain. Un cheval sauvage, si beau et attachant qu'on l'adore. Le Mustang est un cheval sauvage de l'Ouest américain et historiquement du Canada et du Mexique. Tous les Mustangs sont des descendants de chevaux domestiques revenus à l'état sauvage du fait du phénomène du marronnage. Leurs plus lointains ancêtres sont issus de chevaux espagnols amenés par les conquistadors lors de la conquête de l'Amérique et retournés à l'état sauvage après s'être enfuis ou avoir été relâchés. Les troupeaux se sont progressivement agrandis au cours des siècles pour les mêmes raisons. Certains éleveurs relâchant même des chevaux domestiques au milieu des troupeaux afin de sélectionner et de prélever les poulains les plus intéressants. Les Mustangs présentant une grande variété morphologique ainsi que de robes très résistantes et extrêmement frugaux, ils vivent en troupeaux familiaux. Ces troupeaux sont de taille variable, chaque groupe est protégé par un seul étalon et comporte plusieurs juments, leurs poulains de l'année ainsi que les jeunes mâles et femelles des années précédentes. Les Mustangs adultes ont peu de prédateurs naturels, leur présence et leurs déplacements sont donc sujets à controverses. Leur impact sur l'environnement étant régulièrement pointé du doigt, leurs partisans soutiennent que les Mustangs font partie de l'héritage naturel de l'Ouest américain, tandis que leurs adversaires soutiennent qu'ils dégradent le pâturage et rivalisent avec le bétail et les espèces sauvages pour le fourrage.
Bonjour et bienvenue sur RCS, la web radio du collège Robert Schumann. Aujourd'hui, à l'antenne, c'est Louise et nous sommes en compagnie de Monsieur Choreau, psy-EN au collège. Bonjour Monsieur Choreau, comment allez-vous ?
Bonjour à vous tous, merci de m'accueillir dans votre radio.
Depuis combien de temps vous exercez le métier de psy-EN ?
Ça fait bientôt 20 ans que j'exerce ce métier. J'ai commencé d'abord par une formation de 2 ans, après réussite du concours, et après j'étais en poste. Ça fait 17 ans, ma 18e année, que je suis en poste en tant que psy-UN. À l'époque, on était conseiller d'orientation psychologue et on est devenu depuis quelques années psychologue de l'éducation nationale.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier et quelles études avez-vous suivies?
Alors, j'ai choisi ce métier, j'avais d'abord fait une formation de psychologue, donc je suis un psychologue de formation universitaire. Et après quelques années de pratique dans différents champs professionnels, notamment dans la psychologie, j'ai passé le concours que j'ai réussi. Et ça m'a permis, pourquoi le choix de cette formation et de ce concours surtout? Alors, pour être psychologue, c'est parce que j'avais un intérêt pour les gens, l'aide que je pouvais apporter, de manière générale, personnellement. Et par la suite, quand j'ai fait le choix de psychologue d'éducation nationale qui était conseiller d'orientation psychologue, c'était pour avoir aussi une aide apportée, mais plus spécifiquement aux élèves, et apporter des informations sur les études, les métiers, notamment, et avoir un contact peut-être différent qu'en tant que psychologue classique.
En quoi consiste votre métier et quelles sont vos missions?
Dans un premier temps, de manière générale, on informe sur les métiers et les études tout au long de la formation des élèves. C'est-à-dire qu'en gros, quand un élève est au collège, on va l'informer sur les métiers et les études jusqu'au collège. Après, par la suite, quand on est au lycée, les élèves peuvent être aussi informés. Et même ultérieurement, quand on est aussi à l'université, il y a des psychologues d'éducation nationale. Et on peut aussi les accueillir dans un CIO, dans un centre d'information et d'orientation. Alors, dernière chose, on n'est pas obligé d'être un élève scolarisé pour pouvoir avoir, disons, cette prestation, puisqu'on peut nous consulter, tout public peut venir s'informer, et à tout âge, dans un CIO, centre d'information et d'orientation. Alors mes missions, je voulais aussi dire qu'il y a des missions plus ou moins spécifiques selon les lieux où on va intervenir. Soit on intervient en collège ou en lycée, en CIO, mais il y a aussi des psychologues d'éducation nationale, aussi à l'inspection d'académie, voire même dans d'autres organismes. Donc c'est beaucoup plus moins courant, mais ça existe, hein, avec des missions spécifiques qui peuvent être, disons, identifiées. Et notamment au collège, c'est vrai que j'ai des missions peut-être pour différents types de suivi, mais également pour suivre un parcours qui s'appelle le parcours avenir, c'est-à-dire qui est orienté sur de l'information et des études, avec une progression de la 6e à la 3e. En quelques mots, plus pour commencer à sensibiliser les élèves sur l'adaptation au collège, pour continuer sur la découverte de l'environnement socio-économique, pour continuer après sur la découverte des formations, pour qu'ils s'en approprient et qu'ils puissent faire des choix avertis et adaptés en fonction de leurs capacités et de leur goût et centre d'intérêt.
Quand êtes-vous présent au collège?
Alors, je suis au collège ici, au collège Robert Schumann, le mardi toute la journée, de 9h à midi, et en gros de 13h jusqu'à 17h. Après, ça peut être variable en fonction des besoins qui sont identifiés au centre d'information d'orientation, où je peux être mobilisé ce même jour exceptionnellement.
Comment faire pour obtenir un rendez-vous avec vous?
Alors, normalement, il y a un cahier de rendez-vous qui est posé auprès de la professeure documentaliste qui prend les rendez-vous ici quand un élève vient se manifester. Et donc, en général, les rendez-vous peuvent être pris toute la semaine, en sachant que moi, je peux accueillir les élèves en général le mardi. Il faut savoir que les rendez-vous en général durent une demi-heure par élève. Je peux accueillir les élèves seuls, je peux accueillir les parents seuls, je peux accueillir les élèves avec leurs parents.
Avez-vous un petit mot pour les enfants qui nous écoutent, nos éditeurs, voilà.
Ben, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de venir nous consulter pour pouvoir avoir de l'information sur les études et les métiers. Souvent, on est un petit peu, disons, perdu, et c'est une façon aussi d'identifier le professionnel que je suis et de nous solliciter pour avoir un éclairage sur des projets et ne pas avoir peur, en tout cas, de s'informer, parce qu'on peut changer d'idée et de s'informer sur d'autres idées qu'on pourra avoir. Donc, c'est quelque chose d'évolutif dans un parcours de vie et dans un parcours de collégien.
Au revoir Monsieur Choreau et merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous en tout cas de cet accueil et d'avoir pu me permettre de parler de mon métier.
RCS Destination Vacances.
Quel loisir pratiques-tu pendant tes vacances?
L'équitation, les balades à cheval.
D'accord. Tu en fais où des balades à cheval?
Dans le village de ma mamie.
Et ta mamie, elle habite vers où? Tu pourrais nous dire un petit
vers,
peu?
Vers Bayon, Nancy.
Et du cheval, t'en fais en club, je crois, c'est ça?
Oui.
Et tu en fais où?
À Spaclevo.
Quel loisir pratiques-tu pendant tes vacances?
La trottinette. Et des PC et des jeux.
Quel loisir pratiques-tu pendant tes vacances?
Je pratique du vélo et des fois, je pratique de la course.
Ok. Tu fais où du vélo?
La piste cyclable.
Quel loisir pratiques-tu pendant tes vacances?
Ben, je regarde la télé.
C'est tout? Qu'est-ce que tu fais d'autre?
Ben, rien.
Quel loisir pratiques-tu pendant tes vacances?
Je fais de la guitare. Et j'aime bien créer des Legos.
Tu crées quoi avec tes Legos?
Surtout des véhicules et quelques bâtiments.
Tu dis que tu joues de la guitare? Quel genre de morceaux tu joues?
Un peu de tout. Mes préférés, c'est surtout du Claudio Capeo ou du Fatal Picard.
Que fais-tu pendant tes vacances?
Je fais du cheval, je dors et je fais mes devoirs et je mange.
Bonjour, quel loisir pratiques-tu pendant tes vacances?
Je fais de l'équitation, je joue pas mal avec mon frère aussi, même s'il est très très chiant. J'aime bien faire le ménage dans ma chambre, surtout mon bureau et ouais. Et j'aime bien faire des sorties aussi, par exemple au parc ou avec des copines.
Tu joues à quoi avec ton frère?
Bah, plein de choses, des jeux de société, je fais des activités avec lui comme par exemple du dessin, même s'il a 6 ans, mais voilà, je fais quand même plein d'activités un peu voilà, comme ça, je fais même un peu de sport avec lui.
Et tu nous avais dit que tu faisais du cheval, t'en fais où?
J'en fais à Aspac et à l'écurie Mulinger.
Que fais-tu pendant tes vacances?
Ben, souvent on part, je lis ou je fais mes devoirs, ou je joue dehors avec mes filles. Ben, souvent au ski ou encore dans un camping. Oui, je pars en camping et je vais sur l'île d'Oléron. Je lis beaucoup des romans d'aventure.
Quel loisir pratiques-tu pendant tes vacances?
Ça dépend la saison, par exemple en hiver du ski, en automne du vélo. Je pense plutôt un peu quand même la natation, même si je suis pas très fort. Cette année, je crois que je pars pas.
Quel loisir pratiques-tu pendant tes vacances?
Je fais du foot, je joue à la play, voilà, aux écrans, mais surtout du foot, parce que c'est mon sport préféré.
Et t'en fais où du foot?
J'en fais à Saint-Amarin, mais j'en fais aussi chez moi.
Merci.
Venise est l'une des villes les plus magnifiques et romantiques du monde. Située au nord-est de l'Italie, elle est construite sur un ensemble d'îles de la lagune de Venise. Les îles les plus connues du monde se nomment Murano, très réputée pour le verre, qui est exporté dans le monde entier. Burano, qui est très célèbre pour ses maisons colorées et pour la dentelle. Torcello, aussi connu pour la dentelle. Avec ses canaux sinueux, ses ponts, ses places et sa riche histoire et culture. Venise est l'une des destinations touristiques de choix. Les canaux de Venise sont probablement son caractère le plus distinct, offrant une expérience de navigation unique au fil de l'eau, avec des vues spectaculaires sur l'architecture majestueuse et les magnifiques places de la ville. Les gondoles, souvent conduites par des gondoliers en costume, sont une activité touristique populaire et constituent une attraction incontournable pour les visiteurs. Cependant, Venise est bien plus qu'une ville de canaux. Elle regorge de monuments, d'œuvres d'art exceptionnelles, notamment la basilique Saint-Marc, le palais des Doges et le pont du Rialto. Venise est également un lieu riche en événements culturels, tels que la célèbre Biennale d'art de Venise qui attire des artistes venant du monde entier. Ainsi que divers carnavals de renommée internationale. Le carnaval de Venise est unique au monde et sa tradition remonte au XIe siècle, bien qu'elle n'ait été considérée fête publique que 2 siècles plus tard. Le carnaval de Venise a atteint son apogée au XVIIIe siècle, époque à laquelle certains aristocrates venus de loin se rendaient à la festivité. Généralement, les princes et les nobles s'échappaient de leur lieu de résidence pour participer à cet événement. Pendant des siècles, le carnaval a été pour les citoyens d'échapper au contrôle ferme du gouvernement vénitien. Avec l'occupation de Napoléon à Venise, le carnaval a été totalement interdit par peur des possibles conspirations. Le carnaval a eu de nouveaux lieux en 1979.
Le carnaval de Venise est très éloigné de l'idée que l'on se fait du carnaval brésilien. Pendant 10 jours, les personnes se déguisent pour se promener dans les rues et être prises en photo. Les vêtements portés pour l'occasion sont des costumes d'époque du XVIIe siècle vénitien. Ils semblent être sortis tout droit d'un tableau de Canaletto. Durant le carnaval, de nombreux événements et fêtes sont organisés. Certaines d'entre eux sont privées. Il est donc difficile d'y assister. Si vous ne connaissez personne, les prix des fêtes sont généralement élevés. Une nuit peut parfois coûter jusqu'à 500 euros. La plupart des touristes ne se déguisent pas ou se contentent de porter un masque ou un loup acheté dans l'une de ces innombrables boutiques de Venise. Le but de la plupart des visiteurs est de voir Venise durant le carnaval et prendre des photos des meilleurs costumes. Le carnaval a toujours lieu en début d'année, entre la fin janvier et la mi-février, selon l'année. Il est recommandé de bien se couvrir. Un autre point fort de Venise est sans aucun doute sa cuisine. Célèbre pour ses spécialités telles que les spaghettis, les risottos et des amuse-bouches servis dans des bars locaux. La ville produit également un vin appelé le Prosecco, qui est un vin blanc pétillant et très apprécié dans tout le pays.
Bonjour chers auditeurs et auditrices de RCS. Aujourd'hui à l'antenne, c'est Alexis.
Romier.
Et Meme. Et nous allons vous parler de New York.
New York, officiellement nommée City of New York, connue également sous les noms et surnoms, le plus connu est The Big Apple, la grosse pomme. Elle est la plus grande ville des États-Unis. Elle se situe dans le nord-est du pays sur la côte atlantique. La ville se compose de 5 arrondissements appelés Manhattan, Brooklyn, Queens, le Bronx et Staten Island. Ses habitants s'appellent les New Yorkais. On y trouve de nombreux monuments historiques comme la Statue de la Liberté, l'Empire State Building, Central Park, le pont de Brooklyn, Times Square.
Et aujourd'hui Alexis, de quel monument vas-tu nous parler à moi et aux auditeurs ? Nous avons choisi aujourd'hui de vous parler de la Statue de la Liberté où la liberté éclaire le monde. En anglais, Liberty Night Lightning the World, ou simplement Liberté. Plus connue sous le nom de Statue of Liberty, elle est l'un des monuments les plus célèbres des États-Unis. Cette statue monumentale est située à New York, sur la Liberty Island.
Construite et assemblée en France, la sculpture fut confiée en 1871 aux Français Auguste Bartholdi et Gustave Eiffel, avec l'énorme socle permettant de porter sa hauteur de 46 mètres à 93 mètres pour un total de 225 tonnes.
La statue fut offerte par le peuple français aux Américains en signe d'amitié et dévoilée au grand jour le 28 octobre 1886 en présence du président des États-Unis, Cleveland.
La statue fait partie des nations historiques Landmark. Depuis le 15 octobre 1924, aux États-Unis, un national historique est un lieu officiellement considéré comme ayant un intérêt historique de portée nationale et de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1984. L'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture.
Autre monument à visiter, le Mémorial du 11 septembre. Le Mémorial est un musée national du 11 septembre, est un musée américain situé sur les sites des anciennes tours jumelles du World Trade Center, dans le sud de Manhattan, à New York, lieu du terrible attentat du 11 septembre 2001.
Vas-tu partir en vacances ?
En Italie.
En Espagne.
Et est-ce qu'en juillet ou août, tu partiras en vacances ? Si oui, où ?
En juillet, dans le sud.
Où aimerais-tu partir en vacances ?
En Corse.
Et est-ce que tu partiras en juillet ou août ?
Oui, je partirai en Normandie.
Où aimerez-vous partir ?
À Rome.
À Venise.
À Séoul.
Et en juillet ou août, si vous partez où ?
Vers la mer Méditerranée.
À la Côte d'Opale.
Dans le sud aussi.
Aimerez-vous partir ?
Au Japon.
Au Japon aussi.
Et si en juillet, août, vous partez, où c'est ?
Je pars pas, mais sinon j'aimerais bien aller sur des îles paradisiaques. Voilà.
Moi, je pars vers Toulouse dans une grande piscine que ma famille a louée.
Où aimerais-tu partir ?
Au Canada.
Et juillet, août, si tu pars, où c'est ?
Au lac d'Annecy.
Quel est votre rêve ? Où vous voulez partir ?
Alors, j'aimerais bien voyager un peu partout, mais surtout en Europe quand même, et en Europe du Nord, du coup, tout ce qui est Finlande, tout ça, tout ça. Okay.
Et si en juillet, août, vous partez, où c'est ?
Alors, en juillet, je pars à Porto, du coup, au Portugal. Et après, je pars un ou deux jours à Paris aussi cet été, du coup, voilà.
Où aimerais-tu partir en vacances ?
À Dubaï. Miami.
Italie.
À La Réunion.
À La Réunion aussi.
Où aimerez-vous partir en vacances ?
En Italie.
En Espagne. Au Portugal.
Et si juillet, août, vous partez où ?
Dans le sud de la France.
Dans le sud.
Moi, je pars pas.
Où est-ce que vous aimeriez partir en vacances ?
À l'île de la Réunion.
Thaïlande.
Légoland.
Où est-ce que tu aimerais partir en vacances ?
En Albanie.
Et où est-ce que tu pars en juillet ou en août ?
En Albanie.
RCS vous souhaite de très bonnes vacances et nous donnons rendez-vous en septembre.